Bonjour, c'est le révérend Samuel Wabantu. Nous poursuivons avec la troisième partie de notre enseignement sur l'Église selon la pensée de Dieu. La mission de l'Église par rapport à Dieu, c'est pour célébrer la louange de la gloire de Dieu. Célébrer la gloire de Dieu, permettre que cette gloire soit pleinement reconnue et manifestée. Et cela est écrit dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 3 à 6. Et puis nous lirons le verset 13 au verset 14. La Bible déclare « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. La Bible parle clairement ici que le peuple de Dieu a été acquis à la louange de la gloire de Dieu. Dans notre version, il dit pour célébrer la gloire de Dieu. Nous appartenons au Seigneur. La Bible déclare que Dieu nous a élus. Avant la fondation du monde, il avait préparé qu'il aurait un peuple, l'Église, qui aura pour mission de célébrer sa gloire. C'est une mission que Dieu nous a assignée. Toute l'humanité est appelée à célébrer la gloire de Dieu, et même la terre tout entière pour perpétrer la grâce de Dieu. Mais il n'y a que la louange et la célébration du peuple de Dieu qui fait éclater la gloire du Seigneur. Dieu habite au milieu de la louange de son peuple. Les êtres vivants, tout ce qui respire, en louant le Seigneur, cela est un moyen pour eux de perpétrer la grâce de Dieu dans leur vie. La grâce qui est une faveur imméritée. Mais quand le peuple de Dieu se met à louer Dieu, la gloire de Dieu se manifeste puissamment. Il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a l'action manifeste et puissante de Dieu. Nous nous rappelons l'épisode des Actes des Apôtres où Paul et Silas étaient retenus prisonniers. La Bible déclare qu'après qu'on les eut chargés de coups, on les a mis dans une prison avec des chaînes qui les liaient et des gardiens qui gardaient la prison. Et chargés de coups, ce n'est pas simplement frapper, mais le genre de fouet qu'on utilisait, c'était des fouets qui déchiraient la peau. Et dans ces conditions, on les a liés de chaînes, on ne les a pas amenés à l'hôpital pour qu'ils puissent avoir des soins, mais on les a liés de chaînes et mis en prison. La Bible déclare que pendant la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Quelque chose s'est passé. La Bible déclare qu'au milieu de la nuit, le ciel a répondu parce que la prison s'est mise à trembler. Les chaînes que Paul et Silas avaient aux mains et aux pieds se sont brisés. Ils ont été délivrés de leurs chaînes. Pas cela seulement, mais les portes des prisons ont été ouvertes par la puissance de Dieu qui était descendue. Et même les chaînes des prisonniers, des co-détenus de Paul et Silas, qui n'étaient pas chrétiens, je suppose, qui ne participaient pas à cette louange, mais à cause de la louange du peuple de Dieu qui était dans cette prison, les chaînes de tous les prisonniers ont été brisées au même moment. La délivrance totale. Nous nous rappelons que quand Dieu est descendu sur le mont Sinaï pour parler à Moïse, c'est ce même phénomène que les enfants d'Israël ont pu observer. La Bible déclare que la montagne Sinaï s'est mise à trembler depuis le sommet jusqu'à ses fondements. C'est ça la mission du peuple de Dieu. Célébrer la gloire du Seigneur par la louange, par l'adoration, pour manifester la gloire de Dieu. Et la deuxième partie de la mission que l'Église a, c'est la mission par rapport à l'humanité. L'Église a pour mission d'annoncer à l'humanité les vertus du grand Dieu créateur. L'Église est la représentation officielle du royaume de Dieu sur la terre. Elle est l'institution qui rapproche Dieu des hommes et c'est l'institution qui rapproche les hommes de Dieu. Les membres de l'Église connaissent Dieu et ils sont les témoins de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8, la Bible déclare « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, eux jusqu'aux extrémités de la terre. » Le Seigneur, avant de partir, avant qu'il soit enlevé, qu'il monte au ciel, il a laissé une mission. Il a déjà payé le prix à la croix. Il est allé au tombeau. Il est ressuscité. Il est monté au ciel devant la présence du Seigneur dans l'esprit. Il a présenté son sang. Le sang a été accepté. Et le Seigneur, avant de partir définitivement et laisser ses disciples, il leur dit, le Saint-Esprit va venir. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Un témoin, c'est un rapporteur. Un témoin, c'est quelqu'un qui rapporte ce qu'il a vu ou ce qu'il a vécu. Il a dit, vous irez rapporter au monde, à toute l'humanité, ce que vous avez vécu avec moi et ce que vous avez vu auprès de moi. Comme ils étaient à Jérusalem, il leur a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée. Comme c'était des habitués, bien que la plupart venaient de Galilée, mais Jérusalem était devenue quand même leur base. Jésus venait souvent dans le temple et il faisait beaucoup de voyages et ils étaient quand même reconnus. Les disciples avaient eu des acquaintances avec les habitants du coin. C'était quand même pour eux assez facile de témoigner à Jérusalem. Et pas seulement Jérusalem, mais dans toute la Judée. Il a dit, vous irez même en Samarie. C'est là où ça commençait à devenir un peu difficile. Parce que les Juifs et les Samaritains n'étaient pas en bon terme. Souvenez-vous l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine dans l'évangile selon Jean chapitre 4. Là, il déclare qu'en effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains parce que Jésus avait abordé cette femme en lui disant, « Femme, donne-moi à boire. » Jésus pouvait étancher sa soif à sa manière. Il avait plusieurs moyens. Mais il a utilisé le puits d'eau, le lieu où ils étaient, pour être le point de contact pour pouvoir apporter le salut à cette femme, mais aussi à son peuple. Et cette femme était étonnée de cet homme qui venait briser les barrières établies. Au lieu de répondre concernant l'eau, la requête du Christ, la femme était étonnée plutôt de sa démarche. Et elle ne s'en est pas cachée. Elle a dit, comment me demandes-tu de l'eau à moi qui suis une Samaritaine, toi tu es juif? Et l'auteur nous dit, en effet, les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Jésus avait montré l'exemple à ses disciples parce que les disciples étaient allés chercher du pain. Et quand ils sont revenus, ils ont trouvé Jésus en train de discuter avec cette femme. Ce soir-là, Jésus, on lui a rapporté deux choses. Les disciples, avec toute leur expérience qu'ils ont avec le Seigneur, ce qu'ils ont rapporté à Jésus ce soir-là, c'était que des pains, des morceaux de pain, des bouts de pain. Mais la femme qui était supposée être ennemie, qui était supposée être en inimitié avec Jésus, à cause d'une barrière culturelle ou bien une barrière historique. Le même soir, elle n'a pas rapporté du pain, mais elle a rapporté ce que Jésus-Christ aime. Ce soir, cette femme a rapporté à Jésus-Christ tout un village. Un village qui a cru en Jésus-Christ à cause des déclarations formelles de cette femme. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ. Les disciples avec leur panier de pain et à côté, la femme avec toute une foule, tout un village qui s'est converti au Christ. Cela est arrivé parce que le Christ a brisé la barrière, a rompu les coutumes qui s'étaient établies entre les Juifs et les Samaritains, qui les mettaient en inimitié. Jésus a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, jusqu'en Samarie, chez ceux-là qui ne vous aiment pas, qui ne vous apprécient pas, chez ceux qui ont des préjugés. L'Église n'a pas d'excuses par rapport à l'évangélisation. Pour remplir sa mission, le Seigneur nous a montré un exemple et nous sommes ses disciples. J'avais dit, bien avant, qu'un disciple, c'est quelqu'un qui étudie la vie d'un maître pour conformer sa vie à la vie et aux enseignements de ce maître. Si Jésus-Christ est notre maître, nous devons conformer notre vie à la vie de Christ et aux enseignements de Christ. Faire ce que Christ a fait et faire ce que Christ a dit. C'est de cette manière-là que nous pouvons nous réclamer réellement comme étant des gens qui sont des disciples véritables de Christ. Et dans cette joie, le Seigneur a dit à ses disciples, parce qu'il savait qu'il leur demandait quelque chose que lui-même avait déjà accompli. Vous irez jusqu'en Samarie. Et il ne s'est pas arrêté là. Jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais insister un tout petit peu, un peu plus par rapport à cela. Étant un pasteur ici, dans le monde occidental, c'est ici que j'ai pu constater les églises des communautés. Communautés raciales ou bien linguistiques, socioculturelles. J'aimerais vous dire, par la grâce du Seigneur, que notre mission consiste à évangéliser les hommes de toute race, de toute langue, de toute tribu, de toute origine. Même si vos pays, vos gouvernements officiels sont en guerre, sont en conflit, l'Église ne doit pas se mêler des conflits qui sont érigés entre peuples, entre gouvernements, entre nations. L'Église est un sanctuaire d'amour. L'Église doit ouvrir ses portes aux hommes et aux femmes de toute origine, sans discrimination. Tant que ces hommes et ces femmes voudront bien se conformer à la parole du Seigneur, aux principes bibliques, toutes ces personnes sont les bienvenues pour participer aux réunions, au culte de l'Église et communier dans le nom du Seigneur. Ne pas seulement évangéliser quelqu'un parce que vous êtes de la même origine. Un Portugais qui n'a de passion que pour le Portugais et ils montent leur église de Portugais en Belgique ou bien en France, je ne sais pas où. Ou bien les Latinos qui n'évangélisent que les Latinos. Les Noirs qui n'évangélisent que les Noirs. Les Flamands qui n'évangélisent que les Flamands pour parler de la Belgique. Et les Wallons font de même. L'église doit dépasser cela. Parce que la mission que nous avons est une mission pour toute l'humanité. Sans ambiguïté, Jésus a dit, vous irez répandre mon message jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que le message d'amour de Dieu doit être connu par tous les hommes. La puissance du Saint-Esprit doit toucher tous les hommes, peu importe leur origine. Et ce ne sont pas des clubs, ce ne sont pas des entreprises qui le feront. Et je ne sais pas, ce n'est pas le monde qui s'occupera de l'évangélisation, mais c'est l'Église qui a cette mission d'apporter la bonne nouvelle de Dieu à toute l'humanité. Nous passons maintenant au point 6 qui concerne les fonctions dans l'Église. Nous lirons le livre d'Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 4, le verset 7 à 16. Nous sommes toujours dans notre enseignement sur l'Église selon la pensée de Dieu. Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 16. La Bible déclare, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, « Étant monté en haut, il a emmené des captifs, eux, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, eux, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, eux de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonnés, eux formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Dans la même pensée, nous lisons le premier épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 12, les versets 4 et 11. Nous parlons des fonctions de l'Église. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11, la Bible déclare: il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit. À un autre le don de guérison, par le même Esprit. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Il y a diversité de fonctions confiées aux enfants de Dieu dans l'Église en rapport avec le Saint-Esprit que Dieu a départi à chacun. Ces fonctions coordonnent la bonne marche du corps de Christ qui est l'Église en vue de sa grande mission, cette mission précieuse qui est l'évangélisation du monde. La mission d'évangéliser le monde n'est pas confiée aux anges, mais à l'Église. Cette mission est confiée aux hommes et aux femmes qui composent l'Église malgré leurs défauts et leurs imperfections. La tâche d'évangéliser est réservée aux hommes et non aux anges qui sont supérieurs en puissance, qui sont plus parfaits que les hommes. Mais Dieu aime travailler avec les hommes et c'est là avec l'aide du Saint-Esprit qu'il met dans la vie de ses croyants. Ainsi, les fonctions que Dieu donne à ses disciples, à ses enfants de l'Église, mettent les hommes en rapport avec leur travail. La capacité que Dieu donne à quelqu'un, à un homme, lui permet d'avoir une certaine habileté pour faire un travail bien précis dans l'Église. Cette fonction lie un homme à son travail et à son ministère par rapport au don que cette personne a reçu. C'est ce qui est écrit dans Romains chapitre 12, versets 6 à 8, l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 12, le verset 6 à 8, nous allons lire. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Oui, c'est ce que j'ai dit. Le travail, le don que nous avons reçu, nous met en rapport direct avec notre travail. Verset 7 dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. La fonction que nous recevons du Seigneur nous met en lien direct avec ce travail. On attend de nous de faire ce que nous sommes appelés à faire et de bien le faire. Souvent, les gens laissent leur travail, laissent la mission qu'on leur a confiée, laissent la fonction à laquelle ils sont attachés pour essayer de divaguer un peu, d'amener leurs pensées dans un travail auquel ils ne sont pas préparés ou bien auquel ils ne sont pas qualifiés. Que celui qui s'attache au ministère, dit l'apôtre Paul, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Celui qui est appelé à l'exhortation s'attache à l'exhortation. Que celui qui est appelé à l'enseignement, qui s'attache à l'enseignement. Qu'il fasse des recherches pour être capable de bien enseigner. Qu'il trouve les voies et moyens pour que son enseignement puisse être audible, bien perçu par le peuple. Qu'il soit prêt à s'amender à chaque instant Parce que Paul dit à Timothée, prends garde qu'après d'avoir... Il a dit, prends garde à ce que tu enseignes. En veillant sur ton enseignement, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et Paul dit, je me traite durement aussi parce que je n'aimerais pas être rejeté moi-même après avoir enseigné aux autres. Quand je sais que l'enseignement est le travail que Dieu m'a donné, c'est le ministère pour lequel Dieu m'a appelé, je m'attache à l'enseignement. J'investis mon temps, mon énergie, mes moyens, mon argent. S'il me faut acheter des livres pour acquérir la connaissance, je le fais. S'il faut payer de l'argent pour aller suivre les cours, des études, je le fais. S'il faut me déplacer pour aller écouter un auditeur qui a une grâce d'enseigner, je le fais. Pour faire grandir la grâce que j'ai reçue, me permettant moi aussi à mon tour de bien accomplir ma fonction, ma mission. Mais les fonctions de l'Église ne mettent pas les hommes simplement en relation avec leur travail. Les fonctions de l'Église mettent les hommes également en relation les uns par rapport aux autres. Et cela dans la communion avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est le chef de l'Église. Quand je suis dans la chorale, le don que j'ai, le travail que j'ai en tant que chanteur choriste me permet de bien faire ce travail, mais également soit d'être sous les ordres de quelqu'un, par exemple le chef de la chorale, ou bien moi-même si je suis le dirigeant, je peux donner des ordres ou bien conduire, diriger la chorale et ça me met en rapport avec ceux-là que je dirige ou bien ceux qui me dirigent. Le diacre est en relation avec le pasteur est en relation avec ses fidèles. Nous ne sommes pas en relation seulement avec notre travail pour dire que je fais mon travail comme je veux, je fais mon travail comme je le sens, non. Le travail et la fonction que nous avons à l'église nous met en relation également les uns avec les autres. Nous devons veiller à ce que le travail que je fais n'empiète pas sur le travail de l'autre. Nous devons travailler dans la complémentarité, dans la communion, dans l'harmonie, sous l'autorité de Christ lui-même qui est le chef de l'église. Le corps pastoral, le pasteur avec ses pasteurs associés ou bien avec ses pasteurs adjoints, ils doivent travailler en coordination pour qu'on ne retrouve pas un seul travail qui a été fait par 4 personnes au même moment. Chacun ne savait pas que l'autre est en train de faire le même travail. Et on se retrouve après avoir perdu du temps. On avait besoin d'un seul résultat, mais on a 4 réponses ou bien 4 résultats venant de 4 personnes différentes, tellement identiques. Et on a perdu du temps alors que si on s'était concerté bien avant, le travail serait plus harmonieux. Et ici, j'aimerais mettre un point, souligner précisément par rapport à mon expérience, par rapport à mes observations concernant le peuple africain ou les hommes de Dieu venant de l'Afrique, j'ai pu remarquer que nous avons du mal à assimiler la notion de la coordination du travail et surtout de la soumission à l'autorité dans notre travail, dans le ministère, dans l'église. Nous concevons mal avoir un don et se mettre sous l'autorité d'une autre personne qui a un autre don. Mes frères africains, en général, aiment être dépendants dès qu'ils trouvent qu'il a aussi un quelconque don. Dès qu'ils se retrouvent à avoir une qualité qui commence à être reconnue, la plupart d'hommes de Dieu ou bien des musiciens ou bien des choristes, je ne sais pas, et même simplement de dirigeants d'intercession, il veut devenir indépendant, ne plus recevoir les ordres des personnes qui sont élevées dans la hiérarchie. En se disant, si j'ai un don, c'est que Dieu me connaît, obligatoirement je dois faire quelque chose d'une manière indépendante. Monter un autre groupe de chorale ou bien carrément faire une autre église où je vais être moi-même le pasteur alors qu'on n'est pas appelé à être pasteur. On peut être un ministre. Un prédicateur, mais tout prédicateur n'est pas appelé à être pasteur, à diriger directement une assemblée. On peut être docteur, mais tout docteur n'est pas appelé à avoir la fonction pastorale, à diriger soi-même sa propre église ou bien une assemblée. On peut rester un docteur éminent, mais au sein d'une église, en continuant à enseigner, à édifier le peuple de Dieu. Souvent, nous amputons nos églises, nous amputons le corps de Christ, nous amputons nos assemblées, des membres influents des dons principaux que Dieu a mis dans l'église. Ça, on en parlera dans le chapitre qui suit, le chapitre 7 sur les dons spirituels. Nous amputons l'église de ces personnes bien qualifiées que le Seigneur a béni l'église avec et qui pouvaient faire un travail pour la croissance rapide de l'église, pour l'évangélisation du monde, parce que c'est cela notre défi. Car le temps nous est compté. Le Seigneur revient bientôt. Nous sommes soumis à un mouvement de perpétuel recommencement parce que nous repartons toujours à zéro. Car les gens qui sont qualifiés, Dieu ne remplace pas. Après avoir mis 6 ans, 4 ans, 7 ans à former un homme au sein d'une église, et cette personne part, le Seigneur ne remplacera pas quelqu'un à cette fonction, à ce poste, le lendemain, après un mois. Non, il prendra encore du temps pour que quelqu'un vienne se lever et accomplir cette tâche. C'est nous qui en pâtissons, ce n'est pas Dieu. C'est notre mission, en cela dépendant notre jugement, de cela dépendant notre couronne. Et j'espère que cela ne conduira pas aux gens à être jugés par rapport à leur salut, dans le mal qu'ils font à l'église. Je connais un homme de Dieu, de nom, quand j'étais jeune, le révérend Oral Roberts. C'est un homme puissant qui a bouleversé le monde évangélique, surtout dans les années 60. Et c'est un homme qui a beaucoup contribué pour l'évangélisation dans tous les milieux aux États-Unis, au travers de ses émissions télévisées. Et Dieu l'utilisait beaucoup par des miracles, des guérisons et des paroles, des connaissances et même des prophéties. Et on compare souvent ces miracles à ces temps-là avec ce que fait Benny Hinn maintenant. Mais j'aime beaucoup comment Dieu utilisait Oral Roberts. Il se mettait à enseigner et après un moment, il s'asseyait et il se laissait mouvoir dans l'esprit pour donner les messages que Dieu lui avait donnés. C'est un homme qui a fait des très, très grandes réalisations. Je crois que la première université chrétienne évangélique forte, c'est l'université Oral Roberts, l'université qu'il lui a fait. Je suis arrivé jusque là-bas. J'ai vu l'endroit, j'ai vu l'université Oral Roberts. Je suis arrivé là-bas au mois de novembre 99. Et quand j'ai été suivre un séminaire auprès de Rema chez Kenneth Hagin, et je suis passé également, comme c'est dans la même ville de Tulsa, Oklahoma, je suis arrivé là-bas, j'ai pu constater, voir Oral Roberts University, j'ai vu sa tour de prière, il y a la flamme qui brûle là-haut, la prière sont là 24h sur 24, on a visité sa fondation, j'ai vu toutes ces grandes réalisations, et cet homme est connu dans le monde, et quelque chose m'a choqué. Quand mon père spirituel, le pasteur Capé qui nous a conduits, nous étions toute une délégation de Flaming Fire, nous sommes allés là-bas, et il m'a dit, Oral Roberts n'a pas d'église. Malgré tout ce qu'il a fait de grand dans ce monde, malgré la manière dont son ministère est connu, il a toujours été dans l'église, et le révérend m'a montré l'église, et malgré tout ce que le révérend Oral Roberts a fait, il a été resté fidèle dans l'église de Billy Paul Dougherty. Je me suis dit, waouh! Et Dougherty, je ne connaissais même pas. Je l'ai connu là parce qu'on a visité la fondation Osborne. Et ce sont des noms de personnes qu'on ne connaissait pas. Et mon révérend m'a dit, Osborne veut laisser son église, mais il a sa fille qui fait des réunions dans sa fondation, Osborne Foundation, dans tous les bâtiments qu'on a visités. Mais il veut laisser l'église, tout ça, à Billy Paul Dougherty, parce qu'il a dit que Billy Paul Dougherty, c'est un grand missionnaire, il a l'esprit missionnaire, il saura bien conduire l'Osborne Foundation dans le même esprit missionnaire que Osborne lui-même l'a fait. J'ai dit, ah bon, vous ne laissez pas à votre fille, vous laissez à un autre collègue parce que vous pensez qu'il a un esprit missionnaire. J'ai dit, waouh, ça c'est une manière de comprendre les choses de Dieu que nous n'avons peut-être pas encore compris. Et c'est là où je fais la connaissance de Billy Paul Dougherty, j'ai entendu parler de lui du moins, et on me dira que le révérend Oral Roberts a toujours été membre de son église et depuis tout ce temps, toute sa renommée mondiale. Et c'était un homme immensément béni et riche, prospère. Mais il est resté sous l'autorité de notre pasteur, que nous ne connaissons même pas le nom, qui n'a pas son ampleur par rapport aux États-Unis. J'ai dit, waouh, ça c'est quelque chose que moi, venant d'Afrique, que je n'ai pas encore vu les gens faire en Afrique. Et les années plus tard, c'était en 99, et aujourd'hui, nous sommes en 2007 et j'ai toujours la même constatation. Les gens qui ont des ministères, dès que leur ministère commence à s'épanouir, ils veulent directement, ce n'est même pas s'émanciper, mais se soustraire à l'autorité soit de leur père spirituel, soit se soustraire à l'autorité de leur communauté pour créer sa propre communauté indépendante. Chacun veut être indépendant. Le travail que nous avons nous met en relation les uns avec les autres. Nous pouvons continuer à être sous l'autorité de quelqu'un, travailler dans l'harmonie. Chacun doit savoir reconnaître ses limites. Et le problème, c'est que quand une personne est sous notre autorité, chez nous, des fois, les Africains, nous pensons que cette personne subalterne devient notre esclave ou une personne qui pouvons mépriser les sentiments, mépriser le respect, mépriser sa pensée et lui faire subir tout ce que nous voulons. La personne n'a qu'à dire oui et subir le poids de notre oppression. Et souvent, c'est pour cela qu'il y a des clashs. Et quand il y a des clashs, ça se manifeste dans l'église. Les communautés se déchirent. Les églises se coupent en deux ou bien en quatre, en petites miettes. Chaque leader supposé prend un petit morceau. Ou un chef d'intercession se retrouve pasteur sans avoir ni l'appel, ni la qualification et ni le bagage nécessaire pour conduire un peuple. Quelqu'un qui n'a même jamais pu tenir une exhortation de 20 minutes, il se retrouve pasteur d'une église. Et tout cela parce que le rapport entre les personnes dans l'église, selon le ministère, selon la fonction qu'ils ont dans l'église, le rapport entre les personnes n'ont pas été bien géré. Et j'ai vu dans la communauté, qui est en Amérique par exemple, les gens sont toujours restés, quelqu'un qui est dans Church of God, reste dans Church of God. Il fait le ministère, il prospère, il reste, il a quelqu'un à qui auprès de qui il pourra rendre des comptes. Quelqu'un qui est dans l'Assemblée of God, reste dans l'Assemblée of God. Et il reste là-bas, les églises se forment et se multiplient, mais il y a toujours cette coordination. Mais chez nous, c'est à chaque génération, c'est une nouvelle communauté qui naît, qui est indépendante, qui se détache de la première. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de continuité. Vous croyez que l'église catholique serait si forte aujourd'hui si il n'y avait pas de continuité dans leur action, dans leur travail, dans la discipline, bien hiérarchisée? Ils ont un impact mondial parce qu'ils ont su bien hiérarchiser leur système, leur transmission d'ordre, transmission d'autorité et l'harmonie, la continuité du travail. Tous travaillent en harmonie. Il y a plusieurs congrégations dans le catholicisme. Il y a les franciscains, il y a les dominicains, il y en a beaucoup. Et il y a passé mon enfance dans l'église catholique jusqu'à mes 12 ans. Je connais cela. Mais ils sont toujours en harmonie. Et souvent, nous ne comprenons pas que le ministère, le travail que nous avons, nous met en relation les uns avec les autres. Notre fonction nous permet de travailler pour que la fonction de l'autre aussi travaille bien. Quand je fais mal mon travail, je peux handicaper, endommager le travail que l'autre fait. Et c'est le corps lui-même qui en pâtit. Nous sommes tous des acteurs dans le corps de Christ. Et dans le corps de Christ, elle déclare que tout membre du corps a reçu un travail, a reçu une partie du travail, une mission qui lui est propre. Il n'y a rien que nous pouvons faire dans l'église que le Seigneur ne nous a pas recommandé de faire pour que cela puisse amener à faire avancer le royaume de Dieu. Tout ce que nous devons faire dans l'église doit être fait pour faire avancer le travail et le royaume de Dieu. Chacun s'attache à sa fonction et chacun veille de sorte que ce qu'il fait puisse contribuer à l'avancement du travail dans l'harmonie, dans la paix et dans la prospérité pour le travail du Seigneur. Et nous allons voir maintenant le point 7 tous ensemble. Le point 7 qui nous parle des dons spirituels dans l'église. Le point 7 est en harmonie avec le point 6 qui nous a parlé de fonction et nous allons étudier les dons spirituels de l'église. Tout membre de l'église a une fonction que Dieu lui a donnée, comme j'ai dit précédemment. Et le travail dans l'église est un lieu spirituel. Et le travail de l'église est un travail spirituel avant d'être un travail intellectuel, physique ou autre. Notre intelligence intervient pour l'harmonie, pour la bonne coordination de l'église. Nous utilisons nos muscles, nous utilisons nos cordes vocal pour bien chanter et célébrer Dieu dans la louange. Ceux qui travaillent au protocole utilisent le corps que Dieu leur a donné pour être des membres protocolaires, des ushers, comme on appelle, et pour faire le service. Des fois, il faut brancher les instruments, transporter les instruments. Et comme moi, dans l'église où j'ai évolué quand j'étais jeune, c'est nous qui venions très tôt le matin à l'église pour nettoyer l'église. On nettoyait, on balayait l'église. L'endroit où nous avions l'habitude de louer pour célébrer nos cultes, c'était un ancien hôtel. Et il y avait, je crois, la réception de l'hôtel qui servait maintenant d'entrepôt. On sortait les bancs, nous placions les bancs pour les cultes, on rangeait les bancs comme il faut. Et il y avait des bâches que nous étions obligés d'étaler au-dessus de la salle de l'enclos pour que les soleils ne puissent pas déranger les gens. Vous savez, dans ces pays tropicaux, il y a des soleils très forts et des fois, il pleuvait souvent pour que la pluie ne puisse pas déranger le culte également. Et après avoir travaillé comme ça, nous étions obligés, je retournais encore chez moi à la maison pour me préparer, prendre mon bain et revenir pour faire le travail du protocole et rester debout pendant tout le culte. La distance entre le lieu du culte et le lieu où j'habitais, c'était à 30 minutes de marche à pied et en marchant vite, bien sûr. Et on revenait pour faire le travail, être debout, il fallait une certaine endurance. Nous utilisons notre corps, on utilisait l'harmonie, l'intelligence pour faire le travail. Mais le travail de l'église est un travail spirituel et ce travail demande premièrement des qualifications spirituelles. Les autres considérations intellectuelles, physiques, ces considérations viennent après. La première considération pour le travail de Dieu, c'est la considération spirituelle. Quand on n'a pas un esprit disposé, quand on n'a pas reçu une touche divine pour faire ce travail, malgré les compétences physiques ou intellectuelles que nous pouvons avoir, nous pouvons être un instrument de discorde et même de destruction du travail. On peut être une très très belle hôtesse, on peut avoir appris dans les plus belles écoles d'hôtellerie, n'est-ce pas, comment accueillir les gens, comment être souriant, mais si notre esprit n'est pas bien disposé, notre attitude et nos paroles peuvent entrer en conflit avec ce qui se fait dans l'église. Une tentation peut arriver et tout le travail que nous avons fait avec nos capacités intellectuelles peut tomber à l'eau. Le péché peut entrer et tout ce que nous pouvons avoir fait auparavant avec nos capacités intellectuelles ou bien physiques peut détruire l'église et la réputation de l'église. Parce que quand le mal arrive dans l'église, quand le péché arrive, on regarde toute la communauté sous l'angle de ces mal qui vient d'être révélé. C'est pourquoi le travail requis pour l'église, c'est un travail spirituel. Quelqu'un qui est encore un jeune de la foi, quelqu'un qui vient à peine de se convertir, même cette personne est bien disposée pour faire le travail protocolaire, ne lui confiez pas ce travail. Même si la sœur a un joli sourire, ne lui confiez pas ce travail. Même si le frère est bien présentable, celui qui s'habille le mieux par rapport à toute l'église, ne lui confiez pas ce travail jusqu'à ce que cette personne ait acquise une maturité spirituelle. Sinon, vous empêchez sa croissance, vous lui donnez une fonction pour laquelle elle n'est pas préparée spirituellement, parce que l'église est un lieu spirituel. C'est après une préparation spirituelle, après avoir préparé le cœur de quelqu'un, en s'étant rassuré de sa conversion, en voyant le fruit de sa conversion, en observant ce qui sort de sa bouche, car c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche, en voyant le fruit de ses œuvres, parce que les bonnes œuvres ne peuvent pas être cachées. C'est alors qu'on peut confier à quelqu'un, oui, votre critère, votre apparence également, ou bien vos aptitudes physiques ou bien intellectuelles concordent également avec vos qualités spirituelles que nous avons remarquées. Nous avons remarqué que Dieu a mis un tel don en vous, pouvez occuper une telle fonction, pouvez faire un tel travail. Et comme le travail demande des dons spirituels, c'est Dieu lui-même qui se charge d'accorder à l'Église des dons spirituels pour la bonne marche et pour l'accomplissement victorieux de sa mission sur la terre. Concernant les dons divins ou dons spirituels, la Bible fait ressortir la différence entre les hommes qui sont considérés comme des dons du Seigneur à l'Église. Ces personnes sont appelées dons de Dieu pour l'Église. Ces dons-là sont également spirituels. Et ces personnes sont différentes des capacités spirituelles ou bien des dons spirituels toujours que l'Esprit accorde à tous les membres de l'Église. Dans Éphésiens 4, le verset 11, pouvons lire ensemble. C'est un verset que nous avons lu déjà auparavant. Éphésiens 4, le verset 11, déclare: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il a donné, Dieu a fait des dons, il a donné les uns. Ces dons ici que Dieu a fait à l'église, ce sont les hommes. Les uns comme pasteurs, les autres comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs, les autres comme prophètes. Ça, c'est les hommes que Dieu a enrichi l'église. Il a fait les dons à l'église de ces hommes au travers des 5 ministères pour conduire une église, conduire un travail, conduire la communauté de Dieu. Les 5 ministères autorisés. Il y a le ministère apostolique, le ministère prophétique, le ministère doctoral, le ministère pastoral, le ministère évangélique. Ce sont ces 5 ministères qui font partie du sacerdoce chrétien. Comme dans l'Ancien Testament, il y avait les sacrificateurs qui avaient le droit de faire le travail du culte. Et dans l'église, ce sont ces 5 personnes qui font partie du sacerdoce chrétien aujourd'hui. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes. Toute l'église est composée des sacrificateurs, car Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. La Bible déclare que même que Dieu, en anglais, dit qu'il met à kings and priests. Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Mais tout le monde dans l'église n'est pas pasteur, tout le monde n'est pas docteur. Dans cette assemblée de sacrificateurs qui composent toute l'église, Dieu a choisi des catégories de personnes qu'il a donné 5 ministères précis. Et ces ministères font d'eux des gens qui appartiennent au sacerdoce. Les gens auprès de qui Dieu demandera des comptes pour l'église. Les gens qui seront jugés plus sévèrement que le reste du troupeau. Car dans le peuple de Dieu, aucune brebis ne peut se dire que moi je suis le chef. Dieu a établi des bergers pour garder ses troupeaux. Même dans l'Ancien Testament, Dieu parlait toujours. Il dit: où sont les bergers de mon peuple? Les anciens d'Israël étaient considérés comme les bergers. Les sacrificateurs étaient considérés comme les bergers. Les prophètes qui s'élevaient en ce temps-là pour parler de la part de Dieu étaient considérés comme des bergers. Dieu ne les traitait pas de la même manière qu'il traitait le reste du peuple. Dieu leur avait donné une responsabilité. C'était une responsabilité, c'était une charge, mais à cause de cette responsabilité, on leur devait également du respect. Et Dieu avait dit: tu ne m'en parleras pas mal du chef de ton peuple. Et dans l'église aujourd'hui, ce sont ces 5 ministères qui représentent le travail sacerdotal dans le Nouveau Testament. Et le Seigneur voulut qu'il en soit ainsi. Détruire la règle que Dieu a établie, c'est amener les désordres de l'église. J'ai souvent entendu les gens parler et dire: nous sommes tous des serviteurs de Dieu de l'église, nous sommes tous pareils. Oui, tous sommes serviteurs de Dieu, mais tous ne sommes pas pareils. Il y a des fidèles, il y a des serviteurs. Sinon, la Bible ne parlerait pas des fidèles. Sinon, Paul n'écrirait pas ses épîtres et aux fidèles et aux conducteurs. Tous sommes des enfants, mais parmi ces enfants, Dieu a élevé certains au rang de serviteurs et même dans d'autres. Sous un autre angle, ces gens qui sont des serviteurs n'ont pas été élevés, mais ils ont été abaissés parce qu'ils sont devenus serviteurs pour servir les autres. Si on regarde le fait d'être serviteur de Dieu comme étant un point d'honneur, mais par rapport à la responsabilité qui incombe à cette tâche, à cette fonction, à ce travail, je crois que ce n'est pas seulement un honneur, mais c'est une grande responsabilité. Des fois, Dieu vous abaisse. Comme Paul a dit, on a été rendu en tout point serviteur pour vous servir, être à votre service. C'est ça le vrai sens. Un fidèle peut faire des caprices, dire: j'abandonne, je laisse. De toute façon, je ne ferai plus ceci. Mais un serviteur n'a pas le droit de dire: j'abandonne, je laisse. Il n'a pas ce droit-là. On ne lui a pas accordé ce privilège-là. Qu'il pleuve ou qu'il neige, que ça marche pas, il doit rester là, continuer à faire le travail de Dieu. Il ne peut pas se dire: j'abandonne de toute façon. Combien de fois nous voyons des fidèles qui contestent l'autorité des pasteurs ou bien des hommes de Dieu que Dieu a mis à leur disposition, mais ils sont les premiers à abandonner quand ça marche pas. Ça montre que vous n'avez pas ce travail-là à cœur. Et parce que vous n'avez pas été appelé à cela. Bien qu'il y ait des abus, j'ai dit auparavant que le travail d'évangéliser le monde, Dieu ne l'a pas confié aux anges. Ce qui est étonnant et important avec Dieu, c'est que Dieu nous fait confiance tel que nous sommes. Dieu nous appelle tel que nous sommes. Dieu nous oint tel que nous sommes. Il nous connaît mieux que personne. S'il fallait attendre que quelqu'un soit parfait avant de lui confier un ministère, on n'aurait jamais de ministère. Ni Moïse, ni Samuel, ni Josué, ni Abraham, ni Noé. Personne n'aurait jamais eu un ministère. À personne, on n'aurait pu parler, le citer en bon ou en bien comme étant serviteur de Dieu. Personne. Ni Pierre, qui a eu à régner le Christ et qui a eu à être hypocrite devant Paul, sans avoir honte, en sachant que c'est lui qui devait être un exemple devant Paul, et il s'est retrouvé être hypocrite, et c'est Paul le nouveau converti, le Paul qui est venu dans le ministère après lui, qui s'est mis à le reprendre à cause de son hypocrisie, et même en présence des gens. Personne, s'il fallait attendre que tout le monde soit parfait. Et cette parenthèse demande aussi, elle est ouverte pour que j'insiste sur le fait que les serviteurs, ceux qui ont été appelés au service, ont un devoir absolu d'être des exemples pour tout le reste de la communauté. Le fait que nous ayons des défauts ne justifie aucunement la vie de péché, la vie de dissolution, la vie de désordre. Parce que cette vie n'est tolérée ni pour les serviteurs, ni pour les fidèles. Les gens utilisent cela maintenant comme un bouclier en disant nous sommes tous pécheurs, nous sommes personne de parfait et péchons. Il y a un temps pour tout, non, il y a un temps pour tout, mais il n'y a pas un temps pour pécher. Tout m'est permis, quand Jésus dit, quand Paul dit tout m'est permis, ça veut dire tout m'est permis dans ce qui est légal par rapport à Dieu. Il ne nous est pas permis de pécher parce que le salaire du péché c'est la mort. Le Seigneur ne nous a pas permis cela. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Le péché n'est jamais permis. L'apôtre Paul n'a jamais parlé par rapport au péché. En citant ces choses, il n'a pas cité l'impudicité. Tout m'est permis, l'impudicité m'est permis, le mensonge m'est permis. Ces choses sont proscrites. Il a dit, ok, ces choses ne sont même pas, on ne retrouve même pas ces choses au milieu de vous. Ça veut dire que ces choses ne sont pas permises. Et c'est important. Nous avons des dons, les hommes qui sont considérés comme des dons, que Dieu a donné à l'église. L'église doit remercier le Seigneur pour son pasteur, pour son docteur, pour son apôtre, pour son prophète, pour son évangéliste. Et les cinq ministères existent jusqu'à aujourd'hui. Les gens sont entrés dans la confusion. Les gens pensent que pour être pasteur, oui, on peut être, quand toute personne conduit une église, obligatoirement c'est un pasteur. Ou bien, surtout les gens pensent, ce qui me fait souvent rire, qu'un évangéliste, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'importance, qui n'a pas beaucoup de valeur. On doit d'abord être évangéliste, après évoluer pour devenir pasteur. Souvent, quand on entend quelqu'un qu'on appelait avant évangéliste, et après on le voit quand une église, on l'appelle pasteur, il dit, ah, mais toi, tu étais avant évangéliste, et maintenant tu es devenu pasteur. Qui a fait de toi un pasteur? Non, d'abord, le fait de devenir évangéliste, ce n'est pas donné à tout le monde d'être évangéliste. C'est un ministère sacerdotal. Au même titre que le ministère pastoral, que le ministère doctoral, que le ministère prophétique, que le ministère apostolique. Et un apôtre ne peut pas se prétendre être plus important qu'un évangéliste. Ou bien un prophète pourrait prétendre être plus important qu'un pasteur. Et il y a les gens qui ont le ministère pastoral, et comme c'est maintenant ce qu'on appelle communément actuellement la titromanie, les gens veulent avoir des titres. Et quand quelqu'un qui a un ministère doctoral se présente comme étant un docteur, on dit non, tu es bon pour être un pasteur. Même tu es un très très bon enseignant, mais un évangéliste, mais pas un docteur. On croit qu'un docteur c'est quelqu'un qui est supérieur au pasteur ou bien supérieur à un évangéliste. Le docteur ne fera jamais. Le travail de pasteur est un travail très pénible et très difficile. Et je réjouis Dieu parce que ce n'est pas le ministère pour lequel j'ai été appelé. C'est pénible, difficile. Être docteur, c'est facile. Par rapport à être pasteur, par rapport à mon expérience. J'ai beaucoup de respect pour les pasteurs qui arrivent à maintenir le peuple, à maintenir la foule, le peuple de Dieu, à bien perdre le troupeau du Seigneur malgré tous les problèmes qu'il y a. Je peux circuler le monde entier en tant que docteur. J'arrive dans chaque endroit, j'en donne des enseignements. J'édifie les gens, je forme des serviteurs, je continue ma route. Leur problème continuel, celui qui a un problème avec son couple, celui qui a un problème avec son mariage, celui-là qui a un problème, un enfant qui est devenu voyou, je n'ai pas à gérer ces problèmes, je continue mes voyages, mes tournées. Mais le pasteur a dealé, a entretenir et à faire face à tous ces genres de problèmes, ces situations liées à la vie quotidienne de ses brebis. Il ne peut même pas fuir, c'est ça son travail. C'est un travail pénible qu'être pasteur. Et les gens souvent pensaient qu'être pasteur, c'est une qualification moindre par rapport à être docteur. Et puis, il faut sortir obligatoirement d'une école théologique pour être docteur. Et de quelle école théologique on sort pour être apôtre? Et de quelle école théologique on sort pour être prophète? C'est par appel qu'on est évangéliste. C'est par appel qu'on est docteur. C'est par appel qu'on est pasteur. C'est par appel qu'on est prophète. C'est par appel qu'on est apôtre. Maintenant, nous allons dans l'école, nous allons nous former pour nous permettre de bien faire le ministère pour lequel nous avons été appelés. C'est pour cette raison que nous sommes allés dans les écoles théologiques. Pour être mieux outillés, ce n'est pas pour avoir l'appel pastoral ou bien doctoral, non, pour être mieux outillés pour me permettre de bien faire mon travail pastoral, doctoral, évangélique, prophétique, apostolique. Mais l'appel, c'est le Seigneur qui donne l'appel. C'est le Seigneur Jésus qui donne le ministère. C'est Dieu qui opère. Et c'est le Saint-Esprit qui apporte les dons. Et quelqu'un peut être docteur dès son jeune âge, dès qu'il a été établi ministre. Il peut déjà être docteur sans qu'il ait un diplôme. De la même manière qu'il peut être un docteur. Docteur ne veut pas dire que la personne a reçu un doctorat. Oui, il y a des docteurs par rapport au doctorat qui n'ont aucun appel. Et les plus grands théologiens, je vous dis, ne se retrouvent pas forcément dans le monde évangélique. Les plus grands théologiens, je crois, sont les catholiques. Et nous avons des bons théologiens et des éminents écrivains qui sont des musulmans. On peut étudier la théologie de la même manière qu'on étudie l'histoire ou bien la géographie, être docteur. Mais ça ne vous octroie pas l'appel, ça ne vous donne pas l'appel. Vous allez amasser une connaissance, mais une connaissance qui ne pourra jamais transmettre la vie. Parce que le don divin qui communique la vie au travers des enseignements, vous ne l'avez pas reçu. Aucune école ne peut donner cela. Aucune école. Avoir un diplôme de pasteur, mais la capacité spirituelle de paître le peuple du Seigneur et de les amener au pied du maître, de le préparer pour l'enlèvement, et aucune école ne peut donner ces capacités-là. Il n'y a que le Seigneur qui donne par rapport à l'appel. Et il y a souvent des confusions. Aujourd'hui, on trouve ces questions d'actualité chez le peuple de Dieu qui était supposé savoir, connaître et être capable d'enseigner aux autres. Mais l'Église est devenue tellement ignorante aujourd'hui qu'elle ne se diffère en rien par rapport à quelqu'un qui est dans le monde. On voit quelqu'un qui a fait 5 ans de l'Église et quelqu'un qui vient de faire 1 mois de l'Église. Aucune différence parce que celui qui a fait 5 ans n'a même pas grandi d'un seul pouce. L'appel que nous avons reçu font de nous des dons que Dieu a donnés à la communauté. C'est la première catégorie de dons spirituels. Il y a également l'autre catégorie de dons spirituels. Ces dons ne sont pas des personnes que Dieu donne à l'Église, mais au contraire, ces dons sont des capacités spirituelles que Dieu donne aux membres de l'Église. Des aptitudes que Dieu donne aux membres de l'Église pour leur permettre d'accomplir la tâche, la mission de Dieu. L'exemple est cité dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 28, on ne lira pas tout. La Bible déclare, « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous lisons tout carrément, nous sommes au verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, « Parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Si l'oreille disait, « parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps. Ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Imaginez que tous nous serions tous les pieds. Il n'y aurait pas eu de ventre, il n'y aurait pas eu de bras. Ça, c'est une parenthèse. Le verset 20. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi. » Ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous. » Mais bien plus, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes ou bien les moins honorables reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Les membres qui sont déjà honorables n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Enfin, qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un seul membre souffre, les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons des guérisons, des secours, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils les dons des miracles? Tous ont-ils les dons des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs et je vais vous montrer encore une voie par excellence. Waouh, c'est merveilleux cela. Les dons spirituels, ils sont les capacités que Dieu donne aux membres pour leur permettre d'accomplir les fonctions, les tâches divines dans l'église, dans le corps de Christ. Il donne les dons de prophétie aux uns, dons de discernement des esprits aux autres, les dons de parler en langue, les dons d'interprétation des langues, les dons des miracles, les dons de guérison. Il y a plusieurs dons que le Seigneur a donnés, 9 au total. Et ces dons sont des capacités que Dieu donne aux gens pour accomplir la tâche. J'aimerais différencier ces dons des talents naturels. Souvent, quand on entend quelqu'un chanter très bien, on dit « Ah, ça c'est un don !» Oui, on peut appeler cela don, mais ce n'est pas un don spirituel. Ce genre de don est appelé talent. C'est un talent naturel. Michael Jackson a un talent naturel. C'est un très bon chanteur, un bon musicien. Très grand d'ailleurs. Et mais je ne crois pas que son don là, son talent est un don spirituel. Pour éviter la confusion dans l'appellation. Quelqu'un peut être disposé, prédisposé à avoir certaines aptitudes et qualités qu'il peut utiliser dans l'église. Pour chanter, pour être un bon orateur, je ne parle pas de prédicateur, dans les cérémonies, celui qui parle bien. C'est un talent naturel, cette personne a une telle aisance devant la foule que la personne ne panique pas. Quand il y a une fête dans l'église, une célébration, un concert, on peut appeler cette personne pour présider. Mais ce n'est pas ça un don spirituel. Quelqu'un qui est dans le monde, qui n'a rien à voir à Dieu, et même un sataniste peut venir faire cela. Sans l'aide d'un démon, seulement naturellement avec son talent, il fait très bien. Mais les dons spirituels, ce sont des capacités divines. Comme le don des prophéties. Connaître à l'avance les choses qui doivent arriver. Des choses à venir. Don des paroles de connaissances. Dieu vous donne une révélation, vous met en contact d'être au courant d'une situation, de quelque chose qui se passe exactement dans la vie de quelqu'un, dans un peuple, dans un pays. Des paroles de sagesse. Pour prononcer un oracle qui apporte la vie, qui apporte une solution précise par rapport à une situation donnée ou bien un problème donné. Un malade arrive et quelqu'un qui a ce don de guérison de l'église prie, impose sa main à ce malade et ce malade reçoit la guérison. Non, ça c'est appelé à tous les chrétiens. Nous pouvons utiliser la grâce de Dieu par la foi. On impose les mains aux malades. Mais il y a ceux qui ont le don. Peu importe la maladie, quand ces personnes-là se présentent et que leur don se met en action, ouf! Vous voyez comment Dieu est puissant. Vous voyez comme si le Christ ressuscité était en train d'opérer un miracle sous vos yeux immédiatement. Et dans des miracles. Un miracle spectaculaire comme les paralytiques qui marchent, comme les bras amputés qui repoussent. Il y a des gens qui ont vécu ces miracles, sont vrais et authentiques. Je ne sais pas quand on fait des émissions. Bon, dans le monde anglo-saxon, on reconnaît facilement les miracles, on croit aux miracles, c'est dans leur culture. Mais dans le pays dans lequel je vis, la France, le miracle, on semble ne pas reconnaître l'existence des miracles. Parce que ce n'est que de l'apparence. Parce que tous, les chefs de médias, les chefs d'entreprise, les membres de gouvernement, les chefs de gouvernement, tous reconnaissent l'existence des miracles et la plupart appartiennent aux sociétés secrètes. Certaines personnes sont même des satanistes. La France est l'un des plus grands pays où les chiffres d'affaires par rapport à l'astrologie et tout ce qui est tout et dépasse, je crois, les 2 milliards d'euros par an en France. C'est chose qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement, mais les gens y croient profondément. Ça fait partie. Acheter un horoscope chaque semaine, bien chaque jour, fait partie de la vie naturelle normale des Français. Mais quand on parle des miracles, par exemple, par rapport à l'évangile, les gens semblent ne pas y croire. Et on fait des documentaires pour prouver que les guérisons miracles, ces choses-là n'existent pas. Et ceux qui prêchent cela, ils sont en train d'utiliser le peuple, d'exploiter le peuple, ou bien d'avilir le peuple. Ce sont des charlatans, des menteurs. Et on s'adresse particulièrement surtout au monde évangélique. Sachez que ceux qui vous disent qu'ils n'existent pas, eux-mêmes y croient. Ce n'est que le petit peuple, le petit français là, lui c'est vrai, la plupart n'y croient pas. Mais ceux qui propagent la nouvelle que ces choses n'existent pas, les directeurs des médias, les propriétaires des chaînes télévisuelles, chaînes de radio, ceux qui financent, qui produisent les documentaires, ces gens-là, beaucoup appartiennent à des sociétés secrètes et ils croient au miracle. Ils savent qu'il y a un monde spirituel. Ils savent qu'il y a un Dieu, ils savent qu'il y a le diable. Et ça, je le dis. Parce que beaucoup, quand ils se convertissent, ils viennent nous parler. Ils disent, ah bon? C'est vrai? Donc, depuis tout ce temps-là, il dit, non, vous en faites pas, pasteur. Nous croyons, nous savions, mais nous devons maintenir le peuple de l'aveuglement. Alors que nous savons qu'il y a deux royaumes qui sont en combat, le royaume des dieux. Et comme nous le parlons par rapport au royaume des dieux, ceux-là qui combattent, c'est là, vous imaginez 6 ans dans quel royaume eux-mêmes se reconnaissent. C'est étonnant de voir les gens qui croient à l'existence de Jésus, alors que Jésus-Christ lui-même était un faiseur de miracles. On essaie d'expliquer scientifiquement ce que Jésus... Le miracle, ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer scientifiquement, non. C'est quelque chose qu'on peut constater scientifiquement. On ne peut pas l'expliquer. On n'arrive pas à expliquer exactement comment l'homme est arrivé sur la terre scientifiquement. On parle de l'univers, on observe que l'univers est en expansion. L'origine de l'univers, c'est la théorie du Big Bang. Oui, mais qu'est-ce qui a provoqué ce Big Bang à l'origine? Ce Big Bang, avant qu'il y ait une explosion, il devait avoir une matière, quelque chose qui a explosé. Mais qu'est-ce qui a provoqué cela à l'origine? Ça venait d'où? La première matière qui a explosé, elle venait d'où? Là, la science n'a rien à dire. La Bible déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous savons que l'univers est le produit de la création. Et il y en a qui parlent de l'univers comme étant le produit de l'évolution. Scientifiquement, oui. Nous constatons les effets de la création. Et on veut utiliser les mêmes effets aujourd'hui pour contredire la création. Parce qu'à l'origine, il y a quand même avoir eu quelque chose, bien quelqu'un qui a créé quelque chose. Or, Dieu, par définition, c'est quelqu'un qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Donc, il est la personne bien placée pour être à l'origine de l'univers. Comme lui n'a pas de commencement, n'a pas de fin, il s'est décidé à un moment de créer. Et c'est ce que la Bible déclare. Au commencement, l'hébreu dit Bereket, littéralement ça dit dans les temps les plus anciens, dans les moments les plus reculés, Elohim bara. Donc, celui qui est puissant, plein de majesté, bara veut dire, créant en hébreu, ça veut dire appeler du néant quelque chose pour venir à l'existence. Les premiers 3 mots de la Bible, Bereket, Elohim bara. Au commencement, Dieu créa. Dans les temps les plus reculés, les plus immémorieux, celui qui a qui est puissant et plein de majesté, appelé de l'inexistence à l'existence, les cieux et la terre. C'est cela sur les dons spirituels dans l'église. Une église sans dons, c'est une église où les diables dansent du matin au soir. Une église sans les hommes que Dieu a oint, c'est un club, c'est un lieu de rencontre. Mais si nous avons reçu quelque chose de Dieu, nous serons capables de transmettre. Et l'église a été équipée avec tous ses dons parce que l'église est en mission. J'ai pu voir la différence entre les églises où il y a les dons spirituels qui ne se manifestent pas et les églises où il y a les dons spirituels qui se manifestent. J'ai une foi puissante, permanente et inébranlable en Christ, en ses œuvres, en sa résurrection, à la véracité de sa parole qui dit par exemple que vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris, que vous chasserez les démons. J'ai vu les démons être chassés de la vie des gens et j'ai chassé des démons de la vie des gens dans toutes les villes partout où je suis passé. Depuis l'Afrique jusqu'en Amérique en passant par l'Europe. Ce qui a fortifié ma foi en disant que la Bible est vraie, la Bible est d'actualité. Mais l'Église d'aujourd'hui a oublié toutes ses valeurs, toutes ses forces. Et on se contente d'être des gens qui se réunissent dans un local bien précis. On se contente d'avoir le loyer du local payé. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. L'organisation structurelle de l'église est bien assise, mais la vie et la puissance n'est plus dans l'église. Or, l'église, selon la pensée de Dieu, n'est pas une église forcément avec un beau bâtiment. Je souligne que nous devons faire tout pour avoir le plus beau bâtiment possible. Si dans une ville, une église est capable de construire le plus beau building de cette ville-là, faites cela. Le building attirera le regard et un jour, quelqu'un viendra entrer pour savoir ce qui se passe. Mais la priorité, c'est la vie spirituelle dans l'église. C'est pourquoi le Seigneur nous a inspirés à faire cet enseignement. L'église est devenue une chose commune, quelque chose qui est habituel aujourd'hui. Mais il y a 2000 ans, il n'en était pas ainsi. Et nous avons perdu les vraies valeurs de l'église. L'église a traversé beaucoup de choses dans l'histoire. Il y a eu des guerres de religion, il y a eu des moments de censure dans l'église, des moments difficiles, il y a eu des moments de scission dans l'église de Christ. Et aujourd'hui, l'église du 21e siècle ne se retrouve pas. Or, c'est cette église qui doit être prête pour l'enlèvement. La même parole qui a été donnée à Jean, à l'église de l'époque de Jean, à l'église de l'époque de Martin Luther, à l'église de l'époque d'Hyménée, c'est la même parole qui a été donnée à l'église de mon époque. Et c'est par rapport à cette même parole que nous serons jugés. Et c'est par rapport à cette même parole que notre foi sera mesurée. Et c'est par rapport à cette même parole que nous serons enlevés. Et l'église doit savoir quelle est la pensée de Dieu pour l'église. Et l'église doit s'amender. L'église doit faire introspection, se regarder et jeter le regard dans la parole profonde de Christ pour voir si nous ressemblons à ce que Dieu veut que nous soyons. Si le monde entier te donne des compliments, tous les hommes de la rue te donnent des compliments, mais si ton mari, la manière dont tu es habillé, la manière dont tu te présentes ne lui plaît pas, tu dois changer ta manière d'être par rapport à ton mari, pas par rapport à la rue. Sinon, c'est le divorce qui s'en suivra. Si nous nous plaisons au monde, si nous plaisons à nos gouvernements, mais nous devons plonger nos regards sur la parole de Dieu pour que l'église reste selon l'image de la parole. Nous ne devons pas nous conformer. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Nous devons nous adapter, non nous conformer. Et si l'église est ballottée par rapport au gouvernement, aux tendances politiques actuelles ou par rapport au pays, la parole de Dieu est la même. Dans ce que nous devons souffrir pour notre foi, nous devons être prêts à souffrir pour notre conviction par rapport à ce que le Seigneur dit. C'est ce que nous avons voulu partager avec le peuple de Dieu au travers de cet enseignement. Nous avons vu le premier point qui nous a parlé de la définition de l'Église. Le deuxième point nous a parlé de l'origine de l'Église. Et dans le troisième point, nous avons abordé la manifestation de l'Église. Nous avons vu comment l'Église se manifeste. Et dans le quatrième point, nous avons parlé du fondement de l'Église. Au cinquième point, nous avons parlé de la mission de l'Église. Et le sixième point, nous avons parlé des fonctions dans l'Église. Et puis pour finir, au septième point, nous avons parlé des dons spirituels dans l'Église. D'une manière concise et condensée, nous avons voulu transmettre cet enseignement au peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu sache quelle est l'Église selon la pensée du Seigneur. Merci, c'est votre bien-aimé frère, le révérend Samuel Lusangu Wabantu.